Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Clap Cinéma un peu particulier parce que lié au Festival de la Biographie et à Carte Blanche qui présente au Sémaphore deux films. Et j'ai la chance d'être avec Christian Morin. Bonjour.
Bonjour Sylviane.
Donc on vous a demandé un choix difficile. Hein. Quel est le film coup de cœur que vous voulez présenter?
Alors le film coup de cœur que je vais présenter, c'est un film qui s'appelle Certains l'aiment chaud, film en noir et blanc de 1959, que j'ai découvert au moment où je commençais à faire de la clarinette, à découvrir la musique de jazz. Et c'est un film épatant de Billy Wilder.
1959,
c'est l'année de la mort de Sidney Bechet d'ailleurs, ouais. Et l'année de la mort de Gérard Philippe. Ça s'est resté dans ma mémoire d'enfant ou d'adolescent. Et donc ce film m'avait emballé, je l'ai revu plusieurs fois depuis, et quand on m'a demandé de choisir un film, j'appréhendais un petit peu l'aspect cinématographique de ce festival. Je pensais qu'il y avait un débat très sérieux, pas du
non,
tout.
Non, vous allez le présenter.
On va passer un très bon moment, voilà. J'espère.
Il dure 2 heures.
J'avais envie de partager ça avec les spectateurs qui seront présents tout à l'heure.
Et puis, ça raccroche à beaucoup de vos passions. Déjà, vous avez passé la clarinette, parce que je ne vous ai même pas présenté. Mais enfin, je pense que tout le monde connaît Christian Morin, années.
En fait, je suis clarinettiste, mais la clarinette a été un complément d'objet direct, si j'ose dire, à mes études. Après le brevet, je suis rentré directement aux Beaux-Arts, dont je suivais déjà des cours du soir. Mon père avait, après un test psychotechnique, avait décelé quelques dons pour le dessin. Et ça a été le cas d'ailleurs, parce que ça a été un épanouissement complet dans ce domaine. Donc je suis diplômé en art graphique.
Bravo.
Et en publicité de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Et puis après j'ai passé un concours à Paris. Et la clarinette est venue, je vous le disais, en parallèle avec la découverte du jazz. Il y a eu un petit peu de théâtre. Il n'y a qu'une chose que je n'ai pas pratiquée encore, mais sait-on jamais, c'est la danse.
Ah ben vous avez le temps. Hein,
oui.
Il y a un très beau festival flamenco là qui vient de se terminer.
Je sais, surtout moi qui suis originaire de Bordeaux, le flamenco, j'adore ça, avec l'esprit espagnol.
Alors nous avons parlé cinéma et nous allons nous rendre très vite dans la salle, mais j'ai aussi en main votre livre Bis, notre légère Bis, nouvelles histoires légères de la musique classique, parce que quand je vous ai présenté clarinettiste, dessinateur, homme de radio, homme de télévision, mais passionné de musique classique.
Oui, mais la musique classique, vous savez, au début, quand j'ai commencé à Radio Classique, je cherchais un petit peu le moyen de présenter la musique et les musiciens, surtout les compositeurs et les compositrices, ou les interprètes, hommes et femmes.
De façon un peu humoristique.
Oui, mais je dirais qu'il fallait que je voulais découvrir ou faire découvrir un petit peu la vie normale, parallèle, la coulisse de ces gens-là. Ça n'a pas toujours été très joyeux pour certains, des problèmes d'argent, des problèmes d'amour, des problèmes de difficultés, les jalousies, les luttes intestines entre musiciens, entre interprètes et compositeurs. Debussy était critique de musique sous le nom de Monsieur Croche. Et il était assez vache quand même avec ses confrères.
Oui, il y a une partie des critiques avisées et j'ai bien ri.
Oui.
Parce qu'il faut dire que l'on rit beaucoup. J'en avais pris une qui me faisait très drôle parce que je m'étais dit on mettra peut-être le Boléro de Ravel, moi que j'adore, parce qu'il y a la chorégraphie de Béjart dessus. Je peux la lire ou vous
bien
voulez
sûr,
la lire?
Non, lisez-la.
Le Boléro de Ravel, je le présente comme la monstruosité la plus insolente jamais perpétrée perpétrés dans l'histoire de la musique. En fait, vous dites ils ont été méconnus, ils ont été vraiment blasphémés depuis le début, oui. Alors qu'en fait, c'est devenu après des...
Mais bien sûr, mais regardez, Carmen, qui était un beat complet au départ, en 1875, il s'est avéré qu'aujourd'hui, c'est l'opéra le plus joué dans le monde. Ce pauvre Bizet n'aura pas connu son bonheur. Ravel, lui, il y a une anecdote que je peux vous raconter, puisqu'il a une maison à... Il avait une maison à Cibourg, dans le petit port de Saint-Jean-de-Luz. Et un jour, au moment où il travaillait sur le boléro, avant d'aller se baigner, il dit à un de ses amis qui était chez lui, il lui dit « J'ai pensé pour le boléro à une musique un peu entêtante, une répétition. » Il fait quelques notes sur le piano. Ouais. Et puis il lui dit « Et j'habillerai chaque décor différemment. » Et en partant, il met sa serviette sur l'épaule et dit « Imaginez, c'était le tube de l'époque, que ça marche aussi bien que la Madelon. » Et ça a beaucoup mieux marché que la Madelon par la suite.
Ce soir, je vais voir au cinéma Kinépolis la version Carmen de Metropolitan Opera, qui fait beaucoup parler d'elle parce que Carmen arrive en voiture, elle est en short, donc je suis très curieuse.
Alors écoutez, j'ai vu une version un petit peu, celle-ci à l'Opéra Bastille. Je me souviens qu'à la radio, je m'étais un petit fait engueuler parce qu'on était partie prenante dans la mise en scène, c'était une catastrophe.
Oui,
il
n'y
avait que des voitures.
Oui, mais ça doit être celle-ci.
Il y avait des Mercedes et j'avais demandé s'il fallait appeler Mercedes ou Carmen la nouvelle version de l'œuvre de Bizet.
Donc, mais par curiosité, je vais aller le voir. Alors, je reprends le boléro. Du début à la fin, donc la critique d'Edward Robinson, du début à la fin de ces 339 mesures, ce n'est que l'incroyable répétition d'un même rythme et surtout la récurrence flagrante d'un air de cabaret, d'une vulgarité écrasante et peu éloignée dans l'essentiel de son caractère, du gémissement d'un chat de ruelle tabageur.
C'est extraordinaire, c'est extraordinaire.
Donc il y a comme ça. Alors vous les avez cherchés comment? Vous les avez
Alors je travaille avec Jean-François Pité, qui est un de mes très très bons amis, qui a longtemps travaillé aux côtés de Cabu et qui d'abord est un as de la mise en page et de la... C'est lui qui a regroupé tous les dessins depuis l'assassinat de Cabu et bien d'autres. Et donc pour la mise en page, il s'est occupé de ce travail sur les deux premiers, le premier et le second ouvrage. Mais également, il a fait des recherches. On trouve énormément d'anecdotes dans les livres, surtout chez les Anglais.
Oui.
Les Anglais recueillent ça, ils adorent, parce que l'humour anglais.
L'humour anglais.
Mais là, les vacheries aussi entre les musiciens anglais.
Oui, mais qui dit ça avec un ton très.
Très chic. Mais même les vacheries, j'allais dire, entre corps de métier, c'est-à-dire les violonistes se moquent des violoncellistes,
les harpistes... Il y a un petit truc, la différence entre un violoncelle et un violon.
Voilà. On parle le violoncelle met plus longtemps à brûler, par exemple, c'est ce que disent les Anglais. Mais on se moque aussi des harpistes, elles passent leur temps à accorder leur instrument et le reste du temps, elles jouent faux. C'est une vacherie sans nom. Il y en avait un qui détestait les critiques, c'était Eric Satie. Alors vous l'avez peut-être vu dans le livre, Eric Satie, il avait été critiqué par un critique musical qui s'appelait Jean Pouègue. Et il avait écrit à ce monsieur, il lui avait dit « Cher monsieur, vous n'êtes qu'un cul et un cul sans musique ». Donc il a eu, je crois, 8 jours de prison, ça s'est transformé en amende, parce que... Satie, qui était un original, mais moi j'adore la musique de Satie, il avait envoyé cette réflexion aux critiques sur une carte postale sans enveloppe. Ce qui fait que tout le monde l'a lu et le journaliste a pu se plaindre auprès des tribunaux, effectivement.
Alors quand je vous écoute, je trouve que c'est Franck Ferrand qui a fait votre préface.
Tout à fait.
Que vous connaissez bien, je suppose. Et en vous écoutant, je repense à cette phrase qu'il met au début. À l'évidence, il y a du sérieux sous ces dehors enjoués. De même que derrière cette attitude un brin détaché, pas mal de préparation.
Ben, Franck vous connaît bien, puisque nous nous croisons tous les matins. C'est un homme que j'admire d'abord pour ses qualités d'historien.
La culture,
oui. Et puis ensuite, on se croise tous les matins depuis 4 ans, 5 ans maintenant, à Radio Classique. Donc il y a des petits passages d'antenne.
Il vous perçoit quand il a.
Oui, voilà. Donc il est à l'antenne, en direct. Je rentre à pas feutrer dans le studio et avant de m'installer. Non, ce que j'aime bien, c'est justement, je faisais une allusion à la coulisse des artistes, des musiciens et des compositeurs et compositrices ou interprètes. Ce que j'aime bien, c'est plusieurs comédiens de mes amis de la Comédie Française, comme Michel Duchossois ou quelques autres, comme Annie Cordy, me disaient, quand on rentre sur scène, la coulisse n'intéresse pas le public. C'est-à-dire, cette préparation qu'il y a pour un exercice, quel qu'il soit, musical, ne doit pas se voir. Et puis, on ne va pas raconter un peu tous les emmerdements qu'on peut avoir dans une coulisse. Vous avez dans un théâtre, quelquefois, les loges ne sont pas très, très propres, mais c'est comme ça. C'est la vie de tournée. Et quand on est sur scène, rien ne doit apparaître.
Il faut que tout semble facile, évident.
Exactement. Mais c'est, vous savez, Sylviane, c'est un peu comme en jazz. Le jazz, il y a la partie harmonique. Et puis après, on improvise sur cette partie harmonique, mais rien ne doit se voir. Et puis, donc, le problème, c'est que rien ne doit apparaître, mais tout est préparé en amont.
Mais bien sûr, j'ai lu votre livre, je vous ai eu au téléphone. Et puis, moi, ce que j'adore dans un livre, dans une interview aussi, avec quelqu'un comme vous, et Eve Ruggieri vous a fait un petit coucou.
Je ne pouvais pas interrompre notre émission.
Non, mais je l'interview demain et je me disais, voilà, deux personnalités de la musique classique, de la radio, parce que la voix est quelque chose dans la radio.
Alors, Eve est une narratrice, puisque vous en parlez. Elle vous le dira demain. On a travaillé pendant 12 ans ensemble à Radio Classique. On a eu des crises de fou rire. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Mais Eve Ruggieri, pour moi, est une musicologue beaucoup plus élevée que votre serviteur.
Quand on lit sa biographie, elle a fait vraiment des études.
Exactement. Puis j'adore le titre de sa biographie, oui. Au cas où je viendrais à mourir.
Oui. Alors, on parle de la voix, on a parlé de cinéma, on a parlé de tas de choses. Et je vous propose qu'on écoute, parce que la bande-annonce des années 59 était un petit peu publicitaire, etc. Mal, pas très bien faite. Je vous propose qu'on écoute Marilyn Monroe
un extrait du film. Et vous savez que Marilyn était une excellente chanteuse. Elle a commencé très très jeune à chanter. Et très souvent, elle chantait pour certains albums en direct avec le grand orchestre. Mais là, dans ce film, épatante.
Just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Pa-dum-pa-dum-pa-doodly-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be loved by you.
Alors sur Radio Alliance Plus, j'ai le plaisir donc de continuer cette rencontre avec Christian Morin dans ce hall où il y a du monde, du passage. C'est ça aussi un festival,
c'est un festival impérial, de la biographie. Oui.
Et vous allez après au Carré d'Art, bien sûr, signer, dédicacer.
Oui.
Vous aimez ça? Vous aimez le contact
avec
le public?
Écoutez, les dédicaces, c'est agréable parce que c'est un lien direct avec la radio, dans la mesure où à la radio on s'exprime et puis on ne voit pas le public. Mmh. Là, on rencontre des auditeurs ou des lecteurs, bien sûr. Mmh. Et c'est toujours agréable. Les gens, d'une manière générale, sont gentils. Et puis, je vais vous dire, avec le Covid qui n'a rien arrangé, je trouve qu'il y a une certaine déshumanisation aujourd'hui dans le lien des êtres entre eux. Vous avez des gens qui ne disent même pas bonjour le matin. Enfin bon, un petit sourire, ça ne coûte rien. Donc là, il y a une relation, j'allais dire, humaine avec ces gens. On peut bavarder, on peut échanger.
Non, j'aime beaucoup. Il faut les minuter, parce que parfois, il y en a qui sont là très très longtemps, mais ça fait... Et
vous savez, moi aussi, je suis,
un
comme
peu
tous les gens de radio, un peu bavard.
Non, à peine. Alors, je me posais la question, là, vos dessins sont sur la musique, puisque ça paraît dans
tout
une revue.
Tout à fait.
Sur quoi vous faites des dessins? Vous avez toujours un petit carnet sur vous pour dessiner?
Alors, de temps en temps, j'ai un carnet, mais j'engrange des idées dans ma tête. Il y a toujours... Par exemple, vous avez un dessin en double page dans le livre sur l'Égypte, avec une fresque. Alors, toute la représentation des instruments égyptiens l'époque d'il y a 4000 ans sont des photos que j'ai faites au musée du Caire où je suis allé au mois de mai l'année dernière.
Donc le nouveau, non, il est
pas
ouvert.
Non, le nouveau n'est pas ouvert, toujours pas.
Il n'est toujours pas ouvert.
Non, il y a des problèmes économiques.
Ça fait au moins 5 ans qu'il est ouvert.
Oui. Mais ça va être extraordinaire.
Mais j'adore ce vieux musée du Caire.
Le vieux musée du Caire. On rentre dans les dessins de Hergé.
Oui, tout à fait.
Vous savez...
Je cherche pas, mais je ne trouve pas la page, mais elle est superbe. Mais vous dites.
La page centrale, je vais vous la retrouver pendant que nous bavardons.
Et vous. Mais toujours la musique tout de même. Non, vous avez d'autres sujets. Vous parlez de Sempé.
Mais là,
c'était aussi une critique de la société.
Oui, c'est spécifiquement réservé à la musique. Mais donc voilà la page centrale. Alors tous ces dessins, ainsi que les hiéroglyphes, ce sont des reproductions exactes
Voilà
le harpiste, le flûtiste et le tambourin aussi. Et donc on voit un producteur qui propose cet orchestre à
un
directeur de spectacle et qui lui dit écoutez, l'orchestre est plutôt bon, mais je ne peux pas les engager. On ne les voit jamais de face, allusion bien sûr à la façon dont les Égyptiens dessinaient.
Je me souviens toujours d'un professeur d'histoire de l'art qui m'avait dit, et ça m'avait marqué, moi je ne fumais pas, mais mon père fumait des gitanes, et il me dit, pour l'art égyptien, vous pensez à la gitane.
Exactement. Exactement.
Donc ça m'avait marqué la tête de profil, l'œil de face. Et c'est drôle comme il y a comme ça des images qui vous restent. Alors les petits personnages, là il est en couleur, les petits personnages en noir et blanc, moi j'ai beaucoup aimé le mont Chauve. Là j'ai ri aux éclats.
Le type qui dort. Il y a beaucoup, j'ai remarqué que lors de concerts classiques ou autres, il y a des gens au théâtre, des gens qui s'endorment.
Ah oui.
Alors je ne sais pas s'ils sortent d'un repas. Le terrible pour les comédiens, d'aucuns
vous
le direz.
Vous le voyez, vous percevez.
Non, ce sont les matinées, les après-midi. Alors il y a des après-midi à 16h, des spectacles à 16h ou 17h. Les gens sortent de table, quelquefois ils roupillent un petit peu. Donc il vaut mieux jouer en soirée quand même, c'est préférable.
Oui, parce que dans cette multiple vie que vous avez... vous avez joué, vous avez été acteur. Qu'est-ce que vous préférez en fait?
Les tout. Parce que c'est une sorte d'équilibre. Vous savez comme les petits vélos qu'on avait quand on était enfant pour pas se casser la figure. Il y avait deux petits trous à l'arrière. Alors on va dire que le vélo, c'est l'axe central maintenant qu'il est devenu avec la radio et puis les années de télévision. Et puis la petite roue à droite, c'est la clarinette, la musique. Et puis la petite roue à gauche, ça va être le dessin ou les arts en général.
Mais
donc
tout
ça équilibre
fait,
un peu.
Voilà, tout se mélange.
L'avantage, Sylviane, c'est que ça s'associe très très bien. Sortir de l'école des beaux-arts pour aller donner un ou deux concerts de jazz à Bordeaux, puis j'ai monté des festivals. Il y a un festival sur le bassin d'Arcachon qu'on a créé avec le quartet que j'avais à l'époque. J'ai eu l'opportunité de jouer avec tous ces musiciens que j'écoutais en disque, le soliste de Count Basie, Buck Layton, le trompettiste. Je suis allé le chercher à la gare de Bordeaux. Il parlait français, ça tombait bien. Et parce que je n'ai fait que 2 ans d'anglais. J'ai redoublé ma 6e. et après je suis passé à l'espagnol. Mais oui, mais oui.
Vous en souvenez encore, un traumatisme.
Donc, si vous voulez, on a joué avec beaucoup de musiciens de jazz américains. Et j'ai eu le plaisir de jouer en 1983 avec tout l'orchestre de Count Basie. Donc ce sont des souvenirs qui restent. Et puis j'avais mes idoles, c'était Claude Duterte, Maxime Sori, avec qui j'ai beaucoup, beaucoup joué après. Enfin, tout ce plaisir, ces envies qu'on a, c'est une petite étoile qu'on essaie d'attraper quand on est gamin. Mais je crois que ce qu'il ne faut pas perdre peut-être dans la vie, c'est l'enthousiasme et l'envie de faire quelque chose et d'essayer au moins d'aller jusqu'au bout. Ne lâchez jamais prise.
C'est une belle devise. Et puis, j'ai appris plein de choses au niveau de livre. Je ne savais pas qu'il y avait des mots de musicien, comme un cheveu, par exemple. C'est un passage difficile dans une partition.
Ah oui, il y a les mots de musicien, ça.
C'est très, très drôle. Et on peut le feuilleter, le livre. C'est ça que j'aime. On le feuillette, on prend ce que l'on veut.
Voilà. C'est très agréable.
Et puis, si on listait tous les compositeurs dont vous parlez, et puis tous les musiciens dont vous parlez, vous avez une sacrée connaissance. Et puis,
c'est-à-dire, vous savez, il y a quand même un travail de recherche dans des livres.
Et puis il y a des années où on a...
Il y a beaucoup de gens qui ont quand même travaillé avant nous. Il suffit d'aller puiser, picorer un petit peu, rassembler tout ça de façon
agréable. Du travail.
J'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a une centaine de dessins qui accompagnent toutes ces anecdotes. Et comme vous le disiez, c'est facile de lecture.
Il y en a vraiment très, très drôles. Et je pensais... ces générations, j'aperçois Eve Ruggieri là-bas aussi, cette possibilité de rencontrer des milliers de gens.
C'est un bonheur.
Cette passion, c'est un comment. Et le jazz, vous parliez du petit vélo, le jazz, c'est la selle du vélo.
Si vous voulez, je ne sais pas quelle est la priorité, c'est par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire le dessin, mais il y avait la clarinette aussi. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de dissocier l'un ou l'autre.
C'est vous, Christian Morin.
Vous faisiez référence à ces rencontres. Je dois dire que la radio et la télévision, mais surtout la radio, m'a permis de rencontrer des gens, de Émile Victor à Paul-Émile Victor à Brassens, où j'ai passé 7 heures chez Georges Brassens pour une émission de jazz, adorait ça. Ouais. Et donc...
c'est des moments privilégiés. Il faut trouver son propre plaisir dans notre travail.
Et là, vous avez vu, Sylviane, je dédie ce livre à trois personnes qui étaient devenues des très très bonnes relations amicales. Cabu d'abord, avec qui j'ai échangé beaucoup. J'adorais le rire du grand adolescent qu'il était.
J'ai rencontré sa femme ici pour un hommage à Cabu.
Ah oui, récemment.
Magnifique, au Carré
d'Art. Il est formidable. Ouais. Il était formidable. Il est formidable. On va le garder au présent. Il y a Sampé aussi que j'ai rencontré en 1974. On a fait des dessins ensemble pendant une émission de jazz. Il était bordelais comme moi. Et j'ai commencé à dessiner dans le journal Sud-Ouest 10 ans après lui. Et on se voyait souvent à Paris. Et puis le troisième larron, si j'ose dire, c'est Albert Uderzo, le papa d'Astérix, avec qui je suis devenu ami. On a même échangé des dessins. Il m'a offert un cadeau extraordinaire. Et j'aimais beaucoup ces hommes qui, une fois qu'ils étaient installés à leur table de travail, devenaient des petits garçons en train de dessiner, et je dirais presque des poètes. Pour moi, Sampé est un homme extraordinaire. Et Camus, on le sait peu, mais était un remarquable dessinateur.
On avait vu les planches, là, justement, dans l'exposition. Alors, je vous propose, puisque tout est important chez vous, vous aimez tout, mais on a parlé clarinette, et il y a une anecdote du solo glissando de Rhapsody in Blue, qui est un... que vous ne tentez pas de jouer, si,
oui.
Parce qu'il y a un clarinettiste est mort à la fin.
En fait, quand ça a été composé par Gershwin, lors des premières répétitions avec l'orchestre de Paul Whiteman, où Gershwin tenait le piano, le clarinettiste, au début, a improvisé ce glissando de la clarinette qui monte, qui amène le premier thème général. Et Gershwin a dit « on va le garder ». On l'a gardé, et en 1946 ou 47, un certain Grisez, qui était clarinettiste d'un orchestre anglais, a commencé à faire le glissando à la clarinette. Il est tombé et il est mort. C'est pour ces raisons que dans le livre, je dis même à la demande générale, je n'interpréterai pas le glissando du début de Rhapsody in Blue. On peut peut-être l'écouter.
Oui, et puis dans une version où le clarinettiste est toujours vivant.
Voilà, ça c'est... Donc les affaires reprennent.
Christian Morin, je me dis que le temps est très court, hein, les notes légères bis, donc il y a les notes légères 1. Vous allez faire le terre ?
Le terre, je ne sais pas, il y aura peut-être un autre projet pour s'éloigner de la musique, mais toujours avec du dessin. Voilà. Sait-on jamais, parce qu'il faut continuer de dessiner.
Et puis tous les matins, donc à Radio Classique,
à 9h30,
c'est un travail, midi. C'est un plaisir, c'est les deux.
C'est un plaisir, mais j'adore aller faire de la radio.
Ouais.
Bah, mais vous le savez d'ailleurs, nous partageons, ça nous fait un point commun.
Voilà,
donc
écoutez.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un, apprendre à jouer de la clarinette,
ou de l'harpe,
ou alors Sylviane, vous mettre à dessiner.
Eh bien, pourquoi pas.
Chiche.
Merci à vous, Christian.
C'est moi, Sylviane, qui vous remercie beaucoup. Et puis, je profite de notre présence sur votre radio, de ma présence à votre invitation, ça m'évitera d'envoyer des cartes postales, pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2024.
Ça sera dans Clap Cinéma de... Ah, on sera le 31 janvier, ça va, vous
c'est
êtes
parfait.
Dans les nords.
Mais il faut souhaiter la bonne année toute l'année.
Toute l'année.
Quand on ne sait pas ce qui peut nous arriver.
Oui, vu le contexte.
Merci
Sylviane. Merci à vous, Christian.
Restez avec nous sur Radio Alliance Plus.